Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Nous sommes jeudi 9 mars. Bonne journée. Bienvenue au 98.5. Alors, coup d'œil météo, les prévisions sont quand même intéressantes pour les prochains jours. Ce matin, généralement nuageux, moins 3 degrés. Peut-être quelques flocons ici et là, très tôt ce matin, mais pas d'accumulation et ce sera de courte durée, avec un maximum de 2 degrés pour la journée, des moments de soleil. Ce soir et cette nuit, ça demeure couvert, autour de moins 4. Et puis demain, moins 1 degré avec un ciel encore là, couvert, des percées de soleil. Une assez belle journée. Pour le week-end, au-dessus de zéro, dans les deux cas, samedi-dimanche, c'est plus 2. Et on prévoit soleil quand même assez dominant, quelques nuages. Et je rappelle qu'on va aussi procéder au changement d'heure durant la fin de semaine. Donc, on va avancer l'heure, ce qui va amener plus de lumière, finalement, durant les journées. D'abord, un mot sur la publication des sondages radio. Le sondage hiver, qui, vous l'avez entendu, là, confirme que la station demeure la station la plus écoutée au Canada et que l'émission du matin est toujours l'émission numéro un. Je veux vous dire merci. C'est, encore une fois, une marque de confiance et, je dirais, de présence qui fait plaisir à toute l'équipe et les chiffres sont exceptionnels, même trop, je dirais. Là, des fois, je me dis il doit y avoir des erreurs statistiques, mais en tout cas, c'est semaine après semaine, surtout que c'est une période de sondage qui inclut tout le segment du temps des fêtes, Noël et tout ça. Alors, ça fait une équipe de relève qui était présente durant ces semaines-là. Bref, merci encore une fois, puis on travaille fort, puis on va se rendre jusqu'au mois de juin cette année avant de partir pour les vacances, puis après ça, ben amorcer la dernière année à la barre de l'émission du matin. Ukraine, Fabrice de Pierrebourg est sur place, on va lui parler tantôt, mais il y a eu au cours des dernières heures probablement l'offensive la plus forte menée par les Russes contre des positions en Ukraine. Attaque de drones, missiles, ça s'est passé à l'aube. Au moins 6 personnes ont été tuées. 81 missiles ont été tirés, lancés. Il y a 46 cibles qui ont été touchées. Ça a été relevé par le gouvernement ukrainien. Alors, on a vu également, donc je vous le disais, des drones, des ballons espions qui ont été localisés, des attaques tout près de la frontière avec la Pologne. Dans la capitale, Kiev, 2 explosions quand même importantes à 1 heure de différence. 2 citoyens qui ont été tués. Et également, on rapporte que plusieurs infrastructures pour ce qui est de l'électricité, le chauffage, ont également été abîmées. Centrales nucléaires aussi, qui est un peu secoué par, encore une fois, une de ces attaques. Alors, c'est vraiment une opération importante. D'ailleurs, le président Zelensky a dénoncé ce qu'il a qualifié de misérable tactique, ces frappes russes massives dans l'ensemble du pays. Le dossier de la SAAC, quoi vous dire? D'abord, il y a quelque chose d'un peu spécial de voir, je dirais, la classe politique refuser toute responsabilité dans un naufrage. Parce que ce qui se passe actuellement, c'est plus qu'un bordel, là, c'est un naufrage informatique qui, malheureusement, a été, disons, créé par de la négligence, de l'insouciance, d'un manque de planification adéquat. Puis je vais vous donner des exemples de ça et surtout des impacts. Parce que, personnellement, je suis un peu tanné d'entendre les politiciens là, se dire « ben c'est pas moi, c'est pas dans ma cour, c'est à la cour de l'autre. » Puis tout ça, « ben non, 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 c'est pas moi. » Geneviève Guilbeault, hier, qui était ici, je lui posais la question sur le niveau de responsabilité ministérielle dans une crise comme celle-là. Qui est le ou la ministre responsable du désastre informatique? C'est vous ou c'est Éric Kerr?
Ben du désastre informatique.
Ben, c'est un désastre.
Je vous dis, il y a deux choses. Ben si on prend le système de la SAC, là, parce que en fait,
mais c'est vous la ministre responsable.
Mais c'est à la SAC. Ben, c'est-à-dire, okay. Je suis responsable moi de la capacité de la SAC à absorber le volume d'achalandage et les conséquences malheureusement fâcheuses qui ont découlé de l'implantation informatique en termes d'achalandage.
De quoi lui?
Du déploiement de l'identité numérique et de ce qu'on appelle le SAG, le service d'authentification gouvernementale, dont la première phase vient d'être déployée à la SAC chez nous.
Bon, M. Kerr, qui jusqu'à hier n'était pas disponible, qui sera avec nous ce matin, dit « j'ai rien à voir là-dedans, je rejette toute responsabilité, c'est la responsabilité de la SAC ». Ils ont mal fait leur job, c'est un manque de planification, ça a été implanté tout croche dès le départ, mais ça ne me concerne pas, c'est pas ma responsabilité ministérielle. C'est un projet qui a été d'abord autorisé par le CA de la SAC, fait plusieurs années, puis mon ministère est tout nouveau, avant j'étais, je relevais directement du Conseil du Trésor. Là, on a un ministre responsable du numérique, OK? Je comprends là, que dans le cas de la SAC, c'est un peu facile de dire là, ben moi, je suis responsable de la société, mais le volet là, de la procédure, c'est mon collègue. Le collègue dit non, non, moi, c'est oui, le volet numérique, mais ça, c'est dans la cour de la SAC. Ce matin, dans Le Soleil, vous avez un expert qui témoigne un peu de la pression exercée par François Legault et Éric Kerr sur la transformation numérique. Le Québec est un dinosaure. On fonctionne encore avec des fax et les systèmes sont vétustes. Et il dit, le gouvernement et le ministre Kerr poussent beaucoup pour la transformation numérique. Ce qui est correct là, de vouloir la faire. Mais cette pression pourrait faire partie des éléments qui ont rendu les changements de la SAC un peu précipités. Et ce qu'il dit, c'est qu'en matière de changement, il faut progresser par étapes, avancer pas à pas. Et ça, c'est le premier irritant. Parce que tout le monde se protège, là. On l'a mal évalué, on pensait pas, puis bon. Puis vous savez, au ministère de la Famille, ça a fonctionné. Vous savez, le ministère de la Famille, c'est une petite entité, ça n'est même pas comparable avec la Société d'assurance automobile. Donc, l'espèce de « je ne prends pas de responsabilité, c'est pas dans ma cour, ça me regarde pas », puis les gestionnaires... au pire, seront sur une tablette, puis au mieux, ben vont poursuivre leur petit bonhomme de chemin dans l'administration publique. Première chose. Deuxième chose. Je vais vous parler de l'impact. Parce que le discours qui est de dire si les gens étaient un petit peu plus vite au Québec, puis un petit peu, disons, plus collaborateurs en allant chercher les documents requis et en allant s'inscrire en ligne avec l'application, on aurait moins de troubles. Encore là, c'est une demi-vérité. Ce qu'ils vous disent pas trop, c'est que leurs propres systèmes à l'interne sont tout croche. Et je vais vous donner des exemples de ça. Je peux pas le nommer, bien sûr, mais c'est un contrôleur routier. Je travaille depuis 3 semaines avec le nouveau système sur la route et j'intercepte toutes sortes de véhicules. Si vous saviez tous les problèmes que nous avons, j'ai passé d'un courriel pour vous décrire. Je roule sur 2 systèmes en parallèle et les 2 systèmes ne se parlent pas. J'intercepte un camion avec un droit de circuler. Dans un système, c'est oui, puis dans l'autre système, c'est non. Tu fais quoi avec le camion? Un paquet de véhicules qui sont interdits dans un système alors que l'information est fausse. Puis il y a des documents qui existent pour le prouver. Toutes sortes de messages qui ne s'appliquent pas. Des compagnies qui sont carrément inexistantes dans la base de données. Si j'intercepte un Américain, j'ai aucune façon d'obtenir les données. Si je suspends un permis de conduire pour une récidive de cellulaire au volant, la suspension n'est pas intégrée. Il dit « je pourrais continuer des heures ». Ça, c'est pas la faute du consommateur, c'est pas la faute du citoyen. Et je comprends que Mme Guilbeault a dit hier, on va prolonger la période de 90 jours pour éviter que les gens soient pénalisés puis qu'il y ait des sanctions. Mais à l'intérieur même de la SAAC, l'information circule tout croche. Est-ce qu'on peut penser sérieusement que à la fin avril, le système va être stabilisé En finissant l'entrevue hier, Mme Guilbeault parlait de l'été, qui m'apparaît plus réaliste. Alors, on va y revenir tantôt. Puis il y a tout l'enjeu, je le sais, là, fin du mois de mars, pour le volet commercial, chauffeur de taxi. Est-ce que le décret va s'appliquer concernant l'immatriculation, le permis? Sinon, il faudra en passer à un autre, parce que c'est pas vrai qu'il faut pénaliser les chauffeurs de taxi, puis les gens qui ont des activités commerciales, puis il y a des véhicules qui reviennent sur la route avec le printemps. Quand je vous dis que c'est un désastre, c'en est tout un. C'en est tout un. Je veux revenir sur ce que racontait Bénédicte il y a quelques instants au sujet de cette éducatrice spécialisée qui a développé une relation sexuelle et amoureuse avec une petite fille de 13 ans en disant qu'elle était en couple avec. Puis je regardais puis je parlais avec Bénédicte. Il y a tout le volet de « on le savait, c'était connu ». Je reprends les propos de Maître Gary Martin qui dit « c'était connu et ça ne s'est pas fait à la dérobade ». Les documents judiciaires montrent que de nombreuses personnes, dont la famille de la victime, savaient que l'éducatrice avait des contacts sexuels avec l'adolescente. Les parents de la petite ont signé pour qu'elle puisse partir avec l'éducatrice à Cuba. Tout le monde avait l'air pas mal, là, je parle de la famille immédiate, à être au courant de ça, puis qu'il y avait une certaine tolérance. Est-ce qu'on détournait le regard? Puis savez-vous quoi? Il y en a beaucoup de ça, plus qu'on pense. Puis le cas ultime, là, c'est la mère d'un ado avec Michael Jackson, tu comprends, là, qui a quasiment livré son enfant à Michael Jackson. Puis moi, j'ai vu d'autres cas, là, dans le passé, de parents qui étaient témoins d'abus physiques, sexuels, de harcèlement à l'endroit de leurs jeunes, mais qui disaient pas un mot. Tu sais, des coachs. On a vu ça en cyclisme. Je me souviens des allégations de Geneviève Janson, sujet de son coach puis de son père, tu sais. Dans ce cas-là, puis hier, là, c'était quoi? C'était un prof qui abusait d'enfants dans une école. Et je sais qu'il y a des gens de bonne foi là, qui vont dénoncer, mais dans son cas, comment ça se fait qu'autant de gens étaient au courant puis que finalement, personne ne s'est vraiment manifesté, puis que c'est elle qui est allée porter plainte à la police. Autre dossier intéressant, c'est une question fondamentale. On sait que quand on a un animal de compagnie, perdre son chien, par exemple, perdre son chat, être obligé de le faire euthanasier, c'est extrêmement douloureux. Puis on développe avec l'animal de compagnie cette relation privilégiée, cette présence. Pas besoin de faire un long discours là-dessus, vous le savez. Mais il y a un juge qui a décidé, qui a tranché, sans aller sur le fond de la réclamation, là, c'est-à-dire sur le montant, qui a dit aux parties dans une cause, un chien, ce n'est pas un enfant. C'est un couple qui réclame 300 000 à des vétérinaires. C'est une opération qui s'est mal déroulée, on va parler avec, justement, le propriétaire de l'animal en question. Et, en gros, le chien a été amené chez le groupe Dimension Multivétérinaire. C'est en 2019. Et on a eu un diagnostic de torsion gastrique, opération d'urgence. Et la bête s'est réveillée, paralysée, avec, disons, un état de santé puis des effets secondaires assez importants. Donc, selon son propriétaire, M. Raymond, Maître Raymond, à qui on va parler tantôt, c'est une hyperextension du cou pendant l'opération qui a causé la situation. Et il prétend aussi que les vétérinaires ont manqué d'honnêteté. Ils n'ont pas exposé correctement les risques. Et ça, justement en raison de l'âge de virus. Mais la réclamation financière, le juge a dit que ce chien-là avait une valeur, évidemment. Au Québec, on considère encore l'animal comme une table, comme un meuble dans l'environnement. Depuis 2015, les animaux ne sont plus considérés comme des biens, mais plutôt comme des êtres doués d'une sensibilité. Et donc, le juge lui conclut que on comprend tout ça, mais c'est pas, en termes de valeur, la même perte d'un enfant. T'as beau avoir développé n'importe quelle relation avec ton animal, c'est quand même pas une relation avec un père et son fils, un père avec sa fille, une mère avec son fils, une mère. Ça peut pas être le même genre de dommage subi. On va y revenir ce matin. Puisqu'on parle de ces décisions qui sont rendues, une chicane à Beaconsfield avec des enfants qui jouent au hockey dans la rue et ça dégénère, tu sais. Et là, dans ce cas-là, ça a dégénéré solide, là. Puis un des accusés a fait un doigt d'honneur au plaignant. Tu sais, une famille qui veut rien savoir, qui circule rapidement dans le coin. Les autres parents des enfants qui jouent ont peur. Puis un des parents qui fait un doigt d'honneur, le juge a tourné ça quasi au ridicule en disant, d'abord, un, lâchez-moi la Cour suprême, là, puis ces enfants-là ont le droit de jouer. Tu sais, enfin, quelqu'un qui affiche le gros bon sens. Puis de faire un doigt d'honneur, c'est pas un acte criminel. Et les gens étaient un peu intenses en raison des événements. Donc, qui défend le droit des enfants de jouer dans la rue. On comprend, il faut que ça se fasse de façon sécuritaire. On reviendra sur le dossier des épiceries. Alors, les grandes marques, les grandes bannières, Métro, L'Aubla, sont venues témoigner devant le groupe parlementaire en disant, écoutez, problème d'approvisionnement, des augmentations aux trois mois de 10-15% de certains produits, rareté, pénurie, on se ramasse avec des prix élevés, puis évidemment, ben ça coûte plus cher. Mais, jure, tous les présidents de ces grandes entreprises, qu'ils n'ont pas profité du gonflement des prix et que, finalement, leurs marges sont demeurées à peu près pareilles. Que, oui, ils ont de bons résultats, mais c'est pas attribuable à l'inflation. Monsieur Laflèche de Métro qui était ici disait, non, on a quand même fait d'autres types d'opérations. Et merci à la saison de la grippe, puis les enfants qui ont été malades, on a vendu plus de sirop, puis plus de médicaments. C'était bizarre un peu, mais quand même ça, là. Mais en gros, ils disent ne pas être responsables. Puis c'est très difficile à prouver. On comprend que les marges ne sont pas élevées, mais il y a du volume quand même. Alors, ça s'est passé hier à Ottawa. Les taux d'intérêt, ben bonne nouvelle pour vous dire que on est au neutre, ça ne bouge pas. On attend de voir comment les hausses imposées depuis un an vont attaquer l'inflation. Dans le Devoir ce matin, l'équipe d'experts chargée par Québec de visiter les hôpitaux dont les urgences débordent disent qu'il y a beaucoup de problèmes et que les pires salles d'urgence sont maintenant sous surveillance. Les 28 hôpitaux dont les urgences sont les moins performantes au Québec vont devoir atteindre les cibles fixées et les experts les suivent, semble-t-il, à la trace. Il semble que le CHUM a fait l'objet de 3 visites de la part de l'équipe Soutien Transformation Accès Terrain. En résumé, c'est STAT, comme la série. Petit clin d'œil. Depuis 2021. Et il y a moyen de faire mieux. Moyen de faire mieux dans le réseau de la santé. Donc, dans le Devoir, vous allez retrouver ça. Ça fait le tour des manchettes, 6h23. Je vous parlerai de Clic Santé tantôt.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Si je vous dis Clic Santé, qu'est-ce que vous avez en tête? Ben, vous allez dire c'est la plateforme qu'on a utilisée pour prendre rendez-vous afin de se faire vacciner contre la COVID, pour se protéger, puis également vaccination contre la grippe. Et depuis ce temps, ben, Clic Santé a quand même pris du volume. Quand vous allez sur le site, évidemment, COVID, c'est toujours là, mais aussi prise de sang et prélèvement, vaccination, clinique jeunesse, dépistage et santé sexuelle, consultation avec un professionnel, par exemple un médecin, grossesse et pédiatrie, imagerie médicale, maladies chroniques, médicaments et ordonnances, soins de santé, santé-voyage. C'est OK. Et je vous le dis, pour la plupart des gens, la perception, c'est que Clic Santé, c'est une plateforme du gouvernement pour trouver un endroit où aller se faire vacciner. Je vous présente mon premier invité ce matin, Zakaria Ouadardiri, qui est un citoyen qui avait besoin d'aller faire un prélèvement sanguin, puis est passé par Clic Santé. Puis la raison pour laquelle on en parle ce matin, c'est que je veux éviter aux gens de tomber dans, appelons ça, les zones un peu plus floues du système. Il n'y a rien d'illégal dans ça, là. On va se le dire, là. mais disons que c'est étonnant qu'une plateforme qui a été mise en lumière par des opérations publiques nous dirige très rapidement vers des institutions privées pour lesquelles le citoyen doit payer. Monsieur Ouardiri, bonjour.
Oui, bonjour.
Peut-être d'abord nous raconter un peu votre démarche avec Clic Santé là, pour obtenir un rendez-vous pour un prélèvement sanguin.
Oui. Alors, moi, j'ai reçu une requête pour des analyses sanguines de la part de mon médecin. Et de passage à la pharmacie, j'ai appris en fait que je pouvais avoir un rendez-vous pour le prélèvement qui sied à mon horaire, etc. Donc, on m'a suggéré d'aller sur le site Clic Santé pour prendre rendez-vous. Donc, c'est ce que j'ai fait. Un site qui est très bien fait, très facile à utiliser. Je choisis dans les horaires. Bon, il y avait une pharmacie. Je ne sais pas si je peux nommer le nom, mais
oui, absolument.
C'est pas grave. Oui, donc c'était Family Prix. Il y en avait d'autres, plusieurs. Donc celle-là, elle offrait un créneau horaire qui était parfait pour moi parce que je devais être à jeun. Et donc voilà. Alors je choisis, je reçois une confirmation. La première qui dit que bon, voici votre rendez-vous. Et la deuxième qui dit c'est une infirmière privée et donc c'est avec frais. Et ça, je m'y attendais. Comment choisir l'horaire qui, par rapport à nous, pour moi, c'était pas la question. Payer pour le prélèvement, c'était normal. Arrivé là, la pharmacie était fermée. Donc, mon rendez-vous était à 10h30, je suis arrivé à 10h15, 10h20. La pharmacie était fermée. Mais le couloir menait vers une clinique. Donc, bon, je m'avance, je demande, elle me dit oh, « Oui, c'est bien ici, vous pouvez, c'est ici votre rendez-vous ». Et elle me demande tout de suite, est-ce que j'ai une assurance privée? Moi, sincèrement, je m'attendais à ce que, comme les autres m'ont dit, les analyses allaient être envoyées à Sacré-Cœur et puis de là à mon médecin. Donc, j'ai dit, mais oui, j'ai des assurances privées, mais je pensais que c'était au public. Et elle me dit, ah non, au public, pas avant mai. Et là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui allait pas parce que j'avais vu d'autres rendez-vous, que ce soit au CLSC, que ce soit dans d'autres pharmacies, qui était le lendemain, mais moi, c'est ce créneau horaire qui m'a rangé, je l'ai choisi. Une journée de plus ou même une semaine de plus m'aurait pas fait aucune différence. Et donc, je suis sorti de là, je suis allé à une clinique juste à côté, j'ai expliqué mon cœur que j'étais à jeun, que je voulais en profiter, ils m'ont fait passer en 2 minutes, j'ai fait mon prélèvement, j'ai payé mon 17$, et puis je suis sorti. Mais c'est là que je me suis dit, il y a un problème, parce que quand on a des demandes d'analyse et tout ça, il y a des gens anxieux et après ça, il y a des gens super anxieux. Et quand on arrive là et qu'on est pris devant la personne qui nous dit, là, tout de suite vous passez, mais vous payez ou alors vous attendez des mois, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont passer par les assurances. Oui, ils ont des assurances, ils vont payer, mais ça, c'est des frais qui n'ont pas lieu parce que l'assurance ne va pas tout payer, les premiums vont monter et tout ce qui en suit. Et voilà, donc je voulais faire passer ce message parce que je trouvais pas ça correct, c'était pas clair. On m'a dit que c'était une infirmière privée, pas un laboratoire privé, j'aurais choisi quelqu'un d'autre.
Puis j'ai bien compris voilà. dans le message que vous m'avez envoyé dans une autre pharmacie où vous avez testé le système.
Oui.
Si vous aviez pas eu d'assurance privée, on vous aurait fait le prélèvement, puis après ça envoyé, par exemple, l'échantillon vers l'hôpital Sacré-Cœur.
Exactement. Donc j'ai posé la première question, on m'a dit oui, c'est privé. J'ai dit ouais, mais moi je veux aller à l'hôpital. Il me dit c'est $40 et on va vous envoyer à l'hôpital. Donc en fait, c'est comme s'il y avait deux réseaux. On pose la question, vous avez des assurances, on vous fait passer par le réseau privé, vous avez pas d'assurance, d'accord, alors vous payez $40 et on vous envoie à Sacré-Cœur. Et ça, je trouvais pas ça très correct.
Merci beaucoup, monsieur Ouardiri. Bonne journée.
Merci à vous.
Au revoir, Zacharia Ouardiri. Je prends cet exemple-là, puis je dois vous dire, là, je trouve ça un peu particulier. Puis je l'ai fait le test, et c'est indiqué, là. Par exemple, vous allez sur le site pour avoir une consultation avec un professionnel de la santé. On m'envoie vers des cliniques, c'est un choix, là, vers des cliniques avec des médecins non participants à la RAMQ, donc des cliniques privées, c'est correct. Puis là, on dit, oui, vous comprenez que vous allez payer. C'est spécial. Mais je reviens à ces délais. Alors, si je comprends, je prends la voie publique, m'attendre des semaines. Si je paye, puis j'ai des assurances, ça va aller plus vite. Benoît Morin est le président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires. Bonjour, Benoît.
Bonjour, Paul.
Bon, là, vrai, expliquer peut-être au public, là, parce que les gens se disent Clic Santé, ça donne l'impression que c'est un service public, j'arrive là. Puis là, OK, je suis prêt à payer pour ton infirmière en pharmacie, mais là, je comprends bien que j'ai comme deux voies possibles pour ce qui est de l'analyse de l'échantillon.
Exactement. Dans le fond, le patient, si on revient à la pharmacie là, ou au prélèvement, plutôt commençons par le prélèvement, puis on pourra parler de Clic Santé après. Pour ce qui est du prélèvement, il y a trois niveaux de service. Il y a le public, si vous allez au CLSC, ça va être complètement couvert. Puis c'est pas trois semaines de rendez-vous, c'est juste qu'il y a des plages de rendez-vous disponibles. Faut y aller à ce moment-là. Si vous décidez d'aller sur Clic Santé puis prendre un rendez-vous avec la pharmacie ou à la pharmacie pour un prélèvement, il y a deux niveaux de service, puis je vais expliquer pourquoi. Il y a le système de prélèvement privé, c'est-à-dire que le pharmacien engage une infirmière pour faire le prélèvement de prise de sang pour aller porter l'échantillon à Optilab. Et parce qu'il y a une entente avec Optilab, là, il va avoir un frais de prélèvement, puis un frais le patient le dit ce matin, là, d'à peu près 40$, mais l'analyse va être faite par le réseau public via Optilab.
Okay.
Mais il y a des pharmacies qui n'ont pas cet accès-là, sont pas capables d'avoir accès à Optilab parce que Optilab est dans un contexte où je pense que dans certaines régions c'est extrêmement difficile, donc ils n'arrivent pas à avoir un accès. Ce qu'ils offrent, c'est le prélèvement et l'analyse privée, c'est-à-dire qu'un laboratoire privé va faire l'analyse, on fait le prélèvement, le laboratoire fait l'analyse, et là, ça va coûter autour de 150-200$ parce que c'est complètement privé. Et ça, c'est la réalité. Il y a des patients aussi qui vont demander, qui vont dire, mais moi, je suis assuré au privé, je veux des résultats plus rapides. Est-ce que avec le laboratoire privé, ça va être plus rapide? La réponse, souvent, c'est oui. Les délais sont moins grands, mais c'est pas des délais de trois semaines de différence, là, mais effectivement, c'est des délais plus rapides. Donc, en pharmacie, il y a ces deux niveaux-là, puis souvent, c'est pas le pharmacien qui choisit, là, c'est qu'il n'y a pas d'accès. S'il veut offrir le service de prise de sang, ben il peut pas pour le moment, peut-être ça va être possible plus tard, mais avoir un numéro qui donne accès à Optilab.
OK, je comprends ça, mais là...
C'est clair, là.
Oui, non, mais c'est clair, mais en même temps, moi, ça m'irrite un peu. C'est parce que, tu sais, te faire dire, vous n'avez pas d'assurance, ben on va vous l'envoyer vers le secteur public. Tu sais, c'est comme si, t'as une assurance, ben on va te faire payer.
Ben c'est au choix du patient quand l'option est là. Tu sais, je veux dire, si je peux pas avoir d'entente avec Optilab au public, je pourrais même pas offrir ça au patient, puis ça va être des frais complets, assurance pas assurance là. Je pourrais pas y donner d'autres options parce que le pharmacien a pas d'accès. Pour ce qui est du corridor, là, où je comprends que le patient avait le sentiment d'aller dans la pharmacie, mais il n'est pas allé dans la pharmacie, c'est sûr que pour des prises de sang, Paul, ça nous prend un accès en dehors des heures d'ouverture de la pharmacie, parce que souvent, ces prélèvements-là vont être à 7h du matin, la pharmacie n'est pas ouverte. Fait qu'il y a souvent des portes d'accès sur les côtés des pharmacies où ça va être un local dédié à l'infirmière pour ses soins, puis ça va être à part de la bâtisse, si on veut, du pharmacien, parce qu'il y a une réglementation pour les heures d'ouverture, la présence du pharmacien, etc. Fait qu'il y a des organisations de locaux, si on veut, pour être capable de faire ces prises de sang-là en dehors des heures d'ouverture de la pharmacie. Pour ce qui est Clic Santé, Clic Santé, c'est pas une plateforme du gouvernement. En
non.
Tout cas, jusqu'à aujourd'hui.
Non, je le sais, mais est-ce qu'on comprend que dans la perception populaire, là, c'est la plateforme pour la période de vaccination, exemple, contre la COVID. Puis les gens, là, c'était le ministre qui en faisait la promotion, là, juste te rappeler ça, là.
Absolument. Et je suis d'accord avec toi que ça laisse une perception que tout ce qui va être sur Clic Santé...
C'est le gouvernement.
C'est le gouvernement, c'est selon les paramètres publics, mais c'est pas le cas. C'est un système privé de prise de rendez-vous que le gouvernement va utiliser, qui recommande d'utiliser. Et il va y avoir d'autres systèmes, j'imagine, dans le futur de prise de rendez-vous, mais c'est Clic Santé dans le moment, et il y a une panoplie de services qui sont offerts, qui n'est pas un signe de couverture complète tout le temps, là. Fait que c'est, t'as raison d'en parler parce que c'est pas ça Clic Santé. Il peut y avoir des vaccins santé voyage qui sont pas couverts par le gouvernement qui vont être offerts. Il peut y avoir des soins de plaies, un panoplie de services ou même te mentionner des médecins au privé qui vont s'afficher sur Clic Santé. Absolument. C'est l'ensemble des services qui soient couverts ou non couverts par le système public.
Mais la raison pour laquelle j'en parle ce matin, c'est que je veux dire aux gens, parce que dans la vie, là, c'est souvent la perception. Quand un gouvernement, puis le ministre de la Santé lui-même disait « Allez sur Clic Santé, prenez vos rendez-vous, fixez le moment pour la vaccination, c'était vrai pour la COVID, c'était vrai pour la grippe », ben là, tu dis « C'est le site du gouvernement, c'est l'État qui m'envoie là, donc ils font pas la promotion. » OK. Là, tu commences à regarder ça. Puis moi, ce que je veux dire aux gens, il n'y a rien d'illégal dans ça, là. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais soyez conscients qu'il est possible qu'on vous réfère vers un service pour lequel vous allez devoir payer.
Absolument. T'as parfaitement raison.
Parce que j'ai encore testé ce matin, là. On m'offrait un rendez-vous dans 3 cliniques privées. Puis là, on me le dit, là. Avant de prendre le rendez-vous, vous êtes conscient, vous acceptez qu'il y a un montant d'argent à payer. C'est correct. Mais la perception de Clic Santé, je m'excuse auprès des propriétaires de Clic Santé, c'est que c'est pas tout à fait ça, là.
Non, ça pourrait être plus clair. On ressort d'une campagne de vaccination, de plusieurs campagnes massives de vaccination où ça a été la plateforme.
Ben oui.
Une bonne plateforme en passant.
Très efficace.
Très efficace, mais mieux que certaines autres plateformes actuellement, mettons. Mais effectivement, il y a une perception que ce sont des services publics couverts, alors que c'est pas le cas. C'est un mélange de tout ça.
Merci, Benoît.
Merci, Paul.
Au revoir. Benoît Morin, qui est le président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires. En résumé, puis je pense que c'est ça le point d'information ce matin, là, et je remercie M. Ouardiri d'avoir attiré notre attention là-dessus. C'est qu'il faut comprendre que ce n'est pas une plateforme du ministère de la Santé, ce n'est pas une plateforme du gouvernement du Québec, bien qu'elle ait été l'objet d'une promotion du gouvernement dans le cadre d'une campagne de vaccination. Puis, je suis convaincu que le commun des mortels pense que Clic Santé, je parle pas des gens, là, les initiés dans le domaine, mais la plupart des gens se disent que Clic Santé, c'est le gouvernement. Puis, c'est là que je prenais mon rendez-vous pour aller au Palais des Congrès, puis c'était gratis, puis on payait pas, puis bon. Là, ils ont profité de cette publicité gouvernementale, si on veut, pour pouvoir élargir leurs activités. C'est parfaitement correct. Mais il faut que vous sachiez qu'il se peut qu'on vous réfère à un service pour lequel vous allez devoir payer. Ça devient votre choix. Vous les payez pour des... parce que vous avez des assurances, par exemple, pour des analyses, ça vous regarde. Vous les payez pour aller consulter, ça vous regarde. Mais soyez conscient de ça. C'est un peu un irritant, moi, quand on me donne le choix. Ah, vous n'avez pas d'assurance? Bon, OK, on va vous envoyer à l'autre laboratoire. Là, vous ne payerez pas. Tu sais, les zones grises, les zones floues, la perception. Alors, c'est un peu, je pense, le point qui est important de faire ce matin. Encore une fois ce matin, le dossier de la Société d'assurance automobile du Québec. C'est encore un bordel complet. On a beau nous dire qu'il y a peut-être un peu moins d'attente, mais pour parler avec des gens qui sont dans le domaine de la justice, hier je vous parlais des cours municipales, les contrôleurs routiers qui ont de la difficulté à démêler les informations. Donc c'est pas juste le problème du citoyen là qui s'est pas inscrit ou qui s'est inscrit tout croche, c'est le système même qui fonctionne mal. Hier, la ministre Geneviève Guilbeault était avec nous. Annoncer une série de mesures pour étirer, par exemple, les délais pour que les paiements puissent se faire. Puis, sincèrement, je pense qu'on en a pour plusieurs mois avant de normaliser la situation. Et puis, on se demandait, il y a un ministre au Québec qui est responsable de la cybersécurité et le numérique. Il s'appelle Éric Kerr. On l'avait pas trop entendu. Puis on se disait, mais qui est responsable? La ministre Guilbeault, il y a une responsabilité ministérielle dans cette affaire-là. Elle a dit, non, moi je m'occupe de la SAC, lui il s'occupe du volet numérique. Il est avec nous ce matin. Éric Kerr, bonjour.
Bonjour M. Arcand, comment allez-vous?
Bien, vous, comment ça va?
Ma santé est bonne, si c'est ça votre question.
Ben, vous avez pas trop de stress parce que vous dites finalement que le désastre c'est pas dans votre cour.
C'est pas exactement ce que j'ai dit, puis merci de me donner l'occasion de rectifier. En fait, ce que je dis, c'est qu'effectivement, c'est un projet de la SAAC. Donc, c'est la SAAC qui, depuis le début, on parle ici de 2017, a analysé ses besoins, trouvé une solution qui est SAP, procédé à l'adaptation au développement de SAP pour s'adapter à ses besoins. Donc, ils ont la connaissance fine des systèmes. Donc, effectivement, ben c'est eux qui peuvent nous dire où sont les problèmes puis quelles sont les solutions qu'on peut apporter pour corriger les problèmes. Moi, je peux bien arriver avec mes équipes, mais tu sais, sans cette connaissance-là, on n'aidera pas personne. On va être plus nuisible qu'autre chose. Donc, la question n'est pas de savoir si tu es dans ma cour, si tu es dans la cour de Mme Guilbeault, si tu es dans la cour de la SAAC. Écoutez, M. Arcand, le bateau prend l'eau, là, puis là, moi, je pense que la question, c'est pas de savoir qui a percé le trou, c'est comment on le bouche.
Non, ça, c'est trop facile, ça. L'irresponsabilité ministérielle au Québec, c'est un classique. L'irresponsabilité des gestionnaires. Je comprends qu'il faut éteindre le feu, là, mais moi, je veux savoir qui l'a allumé, qui a vu des gens l'allumer et qui n'ont pas fait les choses qu'ils devaient faire. Ça, c'est un point majeur. Mais moi, j'ai des questions précises pour vous ce matin.
Allez-y.
Le dossier de l'implantation de ce système de la SAAC, vous êtes au courant depuis quand comme ministre? L'avez-vous suivi? Quelles sont les interventions que vous avez faites ou les gens de votre ministère?
Parfait. Alors, le dossier d'implantation, il nous a été présenté au mois de novembre dernier. Au moment où il nous a été présenté le plan de match de la SAAC, les indicateurs étaient au vert. Après ça, ben ils ont procédé comme vous le savez. Malheureusement, ce qui a été exécuté n'est pas ce qui était planifié. Et là, ben aujourd'hui, il faut trouver des solutions pour redresser la situation. Donc, je comprends votre inquiétude puis dire je veux des responsables. Mais ce que je vous dis là, c'est que pour l'instant, trouvons des solutions.
Ok, attends.
Après ça, on fera les bilans puis on trouvera les coupables.
Ouais, mais
pour l'instant, Monsieur Arcand.
Mais vous avez dit là, les indicateurs étaient au vert. Qu'est-ce qui était au vert puis qu'est-ce qui a changé dans l'application?
OK. Alors, d'une part, la planification, donc à quel moment on faisait l'interruption de service, à quel moment on faisait le déploiement, comment on procédait au transfert de données de l'ancien système vers le nouveau système et le déploiement de l'application, les tests qui étaient faits sur l'application pour s'assurer que la performance était au rendez-vous. Ce qu'on nous présentait, c'était ouvert, c'était correct, ça me semblait tout à fait raisonnable. Maintenant,
qu'est-ce qu'ils ont fait de différent, c'est ça ma question?
Ben, on a fermé le système en février. Aujourd'hui, vous l'avez dit, M. Arcand, d'entrée d'entrevue, il y a plusieurs anomalies qui sont détectées. Donc là, ben, ce qu'il faut faire maintenant, c'est aider la SAAC à réduire ces gens-là là, qui ont vu leur dossier en attente pendant très longtemps, rattraper ce retard-là, trouver des solutions pour que la solution livre la marchandise et offre les performances qu'elle est supposée offrir. Puis après ça, oui, on va poser questions. Puis oui, on va dire, ben là, qu'est-ce qui s'est passé?
Mais pour
l'instant, les gens qui sont au comptoir puis qui attendent, là, c'est pas des coupables qui veulent, là, c'est des solutions.
M. Kerr, on va juste quand même comprendre le désastre, OK? Parce que moi, je veux le comprendre, le désastre, puis il y a bien des gens qui veulent le comprendre. Est-ce que je comprends que la SAAC a présenté un plan au gouvernement, dont vous, puis que ça avait l'air correct, puis qu'ils ont changé le plan en cours de route?
Ben, je sais pas s'ils ont changé le plan, mais l'exécution, c'est pas ce qui a été présenté, c'est clair.
Okay.
Écoutez, M. Arcand, là. Si on m'avait dit, l'application, il y a des anomalies, il y a des bugs, si on m'avait dit, ben, il faut faire une interruption de service en février, possiblement qu'on aurait dit, écoutez, vous voulez pas y penser encore un peu. Et probablement que la SAAC, c'était pas ça non plus. Puis pour quelle raison il y a eu des délais, puis pour quelle raison les anomalies qu'on constate sont là, je ne sais pas.
Okay.
Mais pour l'instant, ce que moi je veux, là, puis ce que je demande, puis ce que les équipes ont fait avec la SAAC, c'est quelles sont ces anomalies-là, quelle est par degré d'urgence les anomalies qu'on doit corriger, de quelles ressources a-t-on besoin pour les corriger, pour faire que ce système-là, au PC, soit fonctionnel. Après ça, c'est sûr qu'il va y avoir une autopsie à faire. Questions qui devront être posées.
Il y a des réponses qui devront
être fournies.
Oui, mais on va essayer d'en fournir une coupe ce matin. Je vous donne un exemple. Est-ce que, comme vous êtes le ministre responsable de la cybersécurité et du virage numérique, est-ce que des équipes de votre ministère accompagnait la SAAC dans ce virage. C'est pas banal, la Société d'assurance auto, là. C'est un peu plus compliqué que le ministère de la Famille. Y avait-tu du monde de votre gang qui les ont accompagnés dans l'implantation de leur nouveau système?
Alors, la réponse à votre question, c'est non. Et il faut bien comprendre que le ministère existe depuis un an et ce projet-là a été autorisé par le conseil d'administration de la SAAC en 2017. Donc, non, il n'y avait pas d'équipe du MCN. Et en plus, c'est une société d'État, M. Arcan. Alors, c'est pas normal, dans les faits, que deux ministres soient obligés de se mettre les mains dans un projet d'une société d'État. Mais on va le faire parce que la situation commande qu'on le fasse. Et ce que les citoyens s'attendent de nous, c'est qu'on trouve des solutions. Puis je vous entends ce matin, puis votre colère, je la partage, M. Arcan. Là, je ne veux pas me dédouaner d'aucune responsabilité,
non, mais
puis d'aucune
c'est parce que,
obligation sérieux, de reddition de compte.
Non, mais M. Kerr, sérieusement, là, je me demande à quoi votre ministère sert. Vous êtes la personne qui devait piloter le virage numérique. La plus grosse expérience est en train de se faire au Québec, puis vous me dites, il n'y a personne du ministère qui les accompagne là-dedans.
Ben, c'est parce que le ministère existe depuis janvier 2022, M. Arcan. Ce projet-là est sur les voies depuis 2017.
Non, mais là,
il peut quand même pas accompagner avant l'existence du ministère.
Non, mais avant qu'ils commencent à fermer le service puis faire le transit, il y a personne de votre gang qui est avec eux autres.
Non, parce que mais écoutez, les équipes de la SAAC, c'est des équipes très importantes en termes de ressources humaines, financières et matérielles.
On voit ça, oui.
Je vous dis pas que le résultat est au rendez-vous, mais c'est pas faute de ressources au niveau de la SAAC. Donc ça, il y aura d'autres questions à poser. Et vous dites à quoi mon ministère sert. Mais M. Arcan, ce matin, là, l'entrevue que nous avons, vous et moi, c'est sur les problèmes qui sont vécus avec les services informatiques.
Mais
si vous me permettez, je veux juste peut-être, parce que ça, c'est important, puis votre question est importante. Le service d'authentification gouvernementale, et vous l'avez dit, n'est pas en cause. Il fonctionne bien. Et ce matin, on ne parle pas de bris de sécurité. On ne parle pas d'un quidam qui a usurpé l'identité de Paul Arcan pour se créer un faux compte qui faire une transaction frauduleuse parce que le service d'authentification gouvernementale fonctionne bien. Est-ce qu'au niveau du service, on aurait pu être meilleur? Oui,
Là, vous allez vite un peu. Il y a deux questions que vous avez peut-être évité. La première, à quel moment on a expliqué aux citoyens là la campagne d'information que ça prendrait ce numéro-là de vous appelez le SAAC?
Monsieur Arcan, là, mea culpa. Vous avez raison. On a commencé à faire ça en même temps que la SAAC annonçait le projet SAAC-CLIC. Effectivement, si c'était à refaire, je ferais un point de presse différent parce que c'est deux systèmes différents. J'ouvrirais le service du SAAG avant pour que les gens aient l'occasion de tester le service parce qu'à date, les gens qui ont l'expérience du service, et j'invite la population à le faire, me disent tous que finalement, c'est assez simple. Puis le suivi du numéro d'avis de cotisation se fait bien. Et on aurait eu l'occasion d'expliquer pourquoi on a choisi cet indicateur-là. Okay. Parce que moi, ma préoccupation, c'est la sécurité de l'information.
Je comprends, mais qu'est-ce qu'on fait, M. Kerr, avec les gens âgés qui comprennent pas trop comment ça marche? Puis je veux juste vous rappeler le pourcentage d'analphabètes au Québec qui ont peut-être un permis de conduire puis des plaques. Est-ce que c'était essentiel qu'ils obtiennent ce numéro-là?
Alors, donc votre question est excellente. Puis si on avait fait un point de presse, j'aurais eu l'occasion d'expliquer ça. Et vous me donnez l'occasion de le faire. Donc nous, quand on a évalué comment on peut identifier, authentifier un citoyen en ligne pour être sûr, parce que moi, quand je vous crée un compte, je dois être sûr, hors de tout doute raisonnable, de votre identité. Et on a demandé aux Québécois quels sont, puis c'est Léger Marketing qui a fait cette analyse-là pour nous, c'est quels sont les documents qui sont le plus possédés par les Québécois. Donc, vous ne serez pas surpris d'apprendre que la carte d'assurance maladie à 96% arrive en tête. Mais au deuxième rang, l'avis de cotisation arrive à 93% des Québécois nous disent qu'ils possèdent un avis de cotisation. Le permis de conduire arrive au troisième rang à 92%. Alors, et ça se vérifie, M. Arcan, là, moi, j'ai les chiffres du 8, malheureusement, là, mais on a niveau 1, niveau 2, puis si vous voulez, je vous expliquerai la différence entre les deux.
Non.
On a 204 000 comptes qui ont été ouverts.
Ben oui.
Et on a 383 appels à Service Québec.
Alors, comment
pour
vous expliquez
un numéro d'avis de cotisation?
Comment vous expliquez les line-up dans les bureaux de la SAAC?
Ben,
ça se peut qu'il y en ait qui soient un petit peu mêlés, hein.
Non, mais ça va me faire plaisir de vous donner une hypothèse. Notamment, je n'ai pas, et ça va faire partie de l'autopsie. Là, pourquoi? Mais l'hypothèse, là, regardez, il y a quand même plusieurs services qui ne sont pas disponibles en ligne. Puis je vous donne un exemple. Ça, c'est des chiffres de la SAC. Au 7 mars, il y avait 62 866 individus qui étaient allés utiliser un service de la SAC, le service SACLIC. Et moi, à ce moment-là, j'avais 81 900 comptes qui avaient été créés. Donc, il y avait 19 000 comptes créés sur le service d'authenticité. De plus, allés consommer des services. Alors, peut-être que c'est parce que les gens se sont créés un compte. Peut-être que c'est parce que le service dont ils avaient besoin n'était pas disponible sur les services en ligne. Et qu'à partir... Et là, je pense au renouvellement de permis conduire, renouvellement de plaque, renouvellement d'immatriculation, qui ne sont pas des services qui sont disponibles en ligne présentement.
Là, maintenant,
que là, les gens se sont dit, ben, je vais aller au comptoir.
OK. Là, comme je suis quelqu'un... on peut bien dire n'importe quoi, là. Mais je comprends, mais vous avez des hypothèses, vous n'avez pas des réponses.
J'ai des chiffres. Mais ce que je vous dis, là, c'est que j'ai 19 000 au 7 mars, j'ai 19 000...
Je vous dis pas que ça marche pas. Moi, je vous dis qu'il y a des gens qui en ont pas, qui savent pas ce que c'est, puis il y a du monde qui sont analphabètes au Québec. Point barre.
Je comprends, mais ces gens-là, M. Arcan, ce que je dois dire, c'est qu'il y a un numéro de téléphone, ils peuvent appeler Service Québec. Service Québec les accompagne. Je peux vous dire, là... Non, mais vérification faite, M. Arcan, là, des gens qui sont pas très habiles à utiliser des services numériques, ils ont fait le processus et à date, ce que j'entends, c'est que ça se fait bien parce qu'on les accompagne.
Okay. Non, mais
on
c'est
les
correct.
Accompagne moi, je voudrais pour je... les aider okay. moi, je... quand... à faire le processus.
C'est gâteau. Je voudrais juste maintenant, comme on va regarder dans l'avenir, puis vous êtes le ministre, quel est le prochain grand chantier numérique, informatique du gouvernement du Québec? La SAC, c'était gros, là. Le prochain qui s'en vient, c'est lequel?
Santé.
Okay.
Service de santé, il faut numériser ça. Et je peux vous dire là que la SAC nous confirme, nous enseigne des choses et nous confirme des choses, notamment que les projets mammouths, il faut plus aller dans cette direction-là. On doit absolument découper les projets en plus petits segments. Ça va peut-être créer une certaine déception dans le sens où les gens vont se dire, ah, ça fait juste ça. Mais en y allant par étapes puis en rajoutant des services à partir de services qui auront été déployés, qui auront été testés, qui sont robustes, je pense qu'on va éviter ce genre de problématique-là où on déploie des projets mammouths. Okay. Puis là, les ajustements sont pas mal plus durs à faire dans ce temps-là.
C'est justement le but de ma question parce que je comprends qu'il y avait eu appel d'offres pour le dossier de santé numérique puis appel d'offres sur le dossier unifié des systèmes de ressources humaines.
Oui.
Et est-ce que c'est vrai que personne s'est présenté, personne n'est intéressé parce que c'était trop gros l'appel d'offres, trop compliqué, puis que là, il faut recommencer?
Ben, en fait, on a recommencé parce que au niveau du libellé de l'appel d'offres, il y avait des problèmes. Donc, ils ont réécrit ça. Et là, ils retournent en appel d'offres. Mais de dire qu'il y a personne qui était intéressé, non, ça, c'est pas exact.
Il y a combien d'entreprises qui ont répondu à l'appel d'offres?
Ouais, c'est ça. Ça là-dessus, vous avez, ça, il y en avait pas assez. Ça, là-dessus, vous avez.
Non, mais il y en avait combien qui ont répondu à l'appel d'offres?
À ma connaissance, il y en avait une qui avait signifié de l'intérêt, puis à ce moment-là, pas suffisant.
Comprenez-vous là, pourquoi le bon peuple a peur ce matin là? C'est un désastre à la SAC. Vous me dites le prochain, c'est la santé. C'est pas banal.
Oui.
Puis là, vous avez fait deux appels d'offres. Moi, j'entends qu'il n'y a personne qui se présente parce que ce que les gens me disent, c'est que personne chez vous a écouté le terrain pour le ministère de la Santé, qu'ils ont présenté un mammouth, puis se sont dit, on n'ira pas se péter la gueule. C'est pas bien rassurant, l'affaire.
Non, là-dessus, merci de me donner l'opportunité de corriger ça. C'est les problèmes au niveau de l'appel d'offres, puis ce qui m'a été confirmé par la santé, c'est que c'est des problèmes qui sont plus de nature de la façon dont l'appel d'offres a été monté. On va reprendre l'appel d'offres, on va le monter différemment, puis après ça, on verra le résultat, donc le nombre d'entreprises. Mais comprenez bien, M. Arcan, que le dossier santé numérique, c'est un projet qui est important, oui, parce que ça va impacter l'ensemble du réseau, mais le projet comme tel, personne ne peut dire que c'est un mammouth.
Pardon?
On n'a pas encore fait... personne n'a fait l'analyse. Alors, on va faire le besoin. C'est sûr qu'on va faire le besoin. Je peux-tu vous donner un exemple, monsieur?
Le temps file, mais j'ai une dernière question. Je veux savoir si ça plante, c'est vous ou Christian Dubé que j'appelle?
Non, non. Là, nous, on va être impliqués dans ce projet-là avec le réseau de la santé. Donc, le réseau de la santé va définir ses besoins, va nous indiquer les solutions dont il a besoin, puis nous, on va les accompagner. Soyez sans crainte, là, mon ministère, là, il est en place, nous sommes là, nous sommes présents, nous allons être partie prenante, puis il n'y a aucun problème là-dessus. Mais si vous me permettez, puis je veux pas déborder du temps que vous m'allouez, là, mais le Service québécois d'identité numérique, là, je sais pas si vous savez, mais moi, j'ai parlé de ça depuis le début, là, que ça prenait une identité numérique. Ben, le service d'authentification gouvernementale, c'est un premier volet, mais et justement parce qu'on les a découpés. Et la prochaine étape, on va arriver avec le portefeuille numérique. La prochaine étape, on va arriver avec la responsabilité, parce que si vous avez une personne à charge, des enfants, etc., on va arriver avec la communication. Donc, on l'a découpé. Donc, quand on parle du Service québécois d'identité numérique, c'est un immense projet, mais on l'a découpé en plus petits projets. Et on peut faire la même chose avec le dossier santé numérique de la santé. Donc, c'est un immense projet. Mais okay. Quand il sera le temps de le réaliser, on pourra le découper en plus petits projets. Mais justement, apprenons des leçons de ce qu'on a vécu, là.
M. Kerr, merci. Bonne journée.
Ça m'a fait plaisir, M. Arcand.
Bonne au revoir. Journée. Éric Kerr est ministre de la cybersécurité et du numérique. Vous comprendrez qu'il doute un petit peu, là. Le prochain bateau, c'est celui de la santé, qui est en soi une grosse affaire. Et pour les ressources humaines, il n'y a pas une entreprise. Les CGI de ce monde, on dit non, tu touches pas à ça parce que c'est trop compliqué. Puis là, les fonds vont retourner à l'appel d'offres. Fait qu'on en est là. Alors, puis savez-vous quoi? Richard, tu mets tout ça en archive. Quand ça va péter, on va être prêt. Je veux pas que ça arrive. Mais vous comprendrez que le niveau de scepticisme est élevé, puis disons que le niveau de confiance, faible.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Très bien, il y a eu des frappes massives des Russes au cours des dernières heures, donc dans la nuit et à l'aube, un peu partout en Ukraine, la capitale et d'autres régions, on peut penser à Kharkiv, Odessa, où des explosions ont été entendues. On parle d'une pluie de missiles et de drones. Notre collègue Fabrice de Pierrebourg est en Ukraine. Bonjour Fabrice.
Bonjour Paul.
Alors d'abord, comment tu vas? Première question de base, là.
Ça va bien, je suis arrivé hier à Kiev et puis dès cette nuit... La réalité de la guerre m'a rattrapé. Les premières sonneries d'alerte ont retenti à 1h du matin et elles ont duré jusqu'à environ 8h. Effectivement, le mot pluie de missiles est bien exact. Le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne dit qu'ils n'ont jamais vu une frappe d'une telle intensité. Mais surtout, ce qui était particulier, Paul, c'est que les Russes auraient utilisé tout leur éventail de bombes, de missiles dont ils disposent, tirés depuis des avions, mais aussi depuis des navires en mer Noire et en mer Caspienne. En tout, on dit pour l'instant qu'il y a eu 80 missiles de tirés sur le pays, plus 8 drones kamikazes Shahid iraniens. Il y en a à peu près un tiers qui ont été interceptés. Et parmi les missiles, les Russes ont utilisé un de leurs derniers engins hypersoniques qui est capable de voler jusqu'à 10 000 km/h, donc quasiment impossible à intercepter. Et un de ces missiles a frappé une installation électrique au sud de Kiev au cours de la nuit. En tout, je crois qu'il y a eu environ 6 morts et la plupart des villes ont été frappées dans un arc de cercle qui allait du nord à Kiev jusqu'au sud, mais probablement qu'il y avait d'autres cibles qui étaient prévues. Quand on voit le nombre de missiles qui ont été interceptés, il y a une carte, on voit que ça a été à travers tout le pays. La dernière frappe d'ampleur remontait il y a un mois environ et à chaque fois c'est toujours la même chose, on cible les infrastructures énergétiques et aussi tout ce qui est système de défense antiaérienne pour affaiblir le pays, mais aussi affaiblir le moral du pays. Mais les Ukrainiens ont cette force, c'est qu'ils arrivent à rétablir à chaque fois le courant. Ce matin, il manquait quand même un peu d'électricité à Kiev et d'eau chaude. mais on sait qu'ils sont déjà à pied d'œuvre pour remettre tout ça à flot, quoi.
Bon, maintenant, tu as pu t'entretenir avec un Ukrainien qui a été prisonnier des soldats russes pendant une période de 5 mois.
Oui, c'est très intéressant. Puis, on a vu il y a quelques jours, Paul, toute cette image tragique de ce soldat ukrainien désarmé, prisonnier des Russes, qui fume sa cigarette, qui lance le cri de ralliement ukrainien, gloire à l'Ukraine, et qui est exécuté et devant les caméras. Et ça rappelait des mauvais souvenirs à un neurochirurgien militaire ukrainien, Dmytro Kobryak, que j'ai rencontré ce matin. Lui, il s'était engagé pour 2 ans en 2020 dans l'armée ukrainienne, et très vite, en avril, il s'est porté volontaire pour aller à Mariupol, la fameuse ville portuaire du Sud, on sait là, qui a été l'objet d'un siège sanglant pendant 3 mois avant d'être capturé par les Russes. Il est arrivé là-bas la mi-avril, après un vol en hélicoptère, et il me disait, quand je suis arrivé sur place, c'était comme l'apocalypse, comme on voit dans les films d'Hollywood. Il y avait des bombardements incessants. On sait qu'il y a beaucoup d'usines chirurgiques là-bas, dont Azovstal. Toutes les structures étaient tordues, il y avait de la fumée, des flammes partout. Et lui s'est occupé d'un hôpital militaire qui était souterrain, dans les fameux bunkers. Il y avait environ 300 personnes blessées là. Ça a duré pendant 3 semaines, mais il disait chaque jour, dans notre bureau, on avait une carte, puis on mettait les positions russes. Et on s'est rendu compte qu'au bout d'un moment, on n'avait plus aucune chance de sortir. Puis qu'il y avait 2 options pour nous qui s'offraient, c'est soit de mourir, soit de se rendre. Donc leur commandant, à la mi-avril, leur a dit « on va se rendre ». Ils sont sortis, ils ont été immédiatement capturés par les Russes, envoyés dans un premier camp. Là, il dit qu'on est sortis du bus pour rejoindre les baraquements. Ils sont mis à tous nous taper avec des matraques, avec des bâtons. Après, ils ont été incarcérés dans une colonie pénitentiaire, pas loin de Mariupol. Lui, il disait qu'en tant que médecin, il était pas mal épargné, mais dès qu'ils savaient que leurs prisonniers avaient été soit tueurs d'élite, soit dans l'artillerie, alors eux étaient torturés à l'électricité. Il dit certains ont eu les parties génitales brûlées avec des flammes. Puis il dit c'est moi qui les soignais parce que les Russes ne voulaient pas utiliser leurs médecins. Donc il disait aux médecins qui étaient prisonniers, occupez-vous-en, quoi. Il disait qu'ils étaient extrêmement brutaux. Il leur donnait à peine 2 minutes pour manger. Donc la plupart des prisonniers ont souffert de dénutrition. Et puis 5 mois et demi plus tard, on les a embarqués dans un bus, puis dans un avion. Puis il dit à un moment donné, on est remonté dans un bus, plus de bruit pendant 1 heure. Puis ils ont entendu les portes s'ouvrir, quelqu'un qui s'est mis à leur arracher. On leur avait bandé les yeux avec des adhésifs et attaché les mains. Quelqu'un lui a enlevé son bandeau, puis lui a parlé en ukrainien. Il savait qu'il venait d'être, heureusement, un des chanceux qui avait fait partie d'un échange de prisonniers. Donc ils étaient environ 200 ce jour-là. Et lui, quand il a vu les images, il m'a dit... Je suis pas étonné, ils ont essayé des simulacres d'exécution avec nous, mais il dit pour nous, les Russes, ce sont des animaux, quoi, des brutes. Il ne faut pas être étonné. Les conventions de Genève, ils ne connaissent pas ça. Quoi.
Et puis, Fabrice, maintenant, c'est direction Donbass.
Oui, c'est ça. On est en route là pour le Donbass, où je vais passer plusieurs jours là-bas. Donc, on se parlera à plusieurs reprises.
Merci, tu fais attention à toi.
Dans la région de Bakhmut, entre autres.
Parfait. Merci beaucoup. Fabrice de Pierrebourg en direct de l'Ukraine. Très bien. Cette fois, on vous raconte l'histoire d'un couple qui réclame 300 000 $ à des vétérinaires d'un animal, un chien, qui a été opéré et l'opération a mal tourné. Il s'est retrouvé avec des séquelles importantes et que finalement, malheureusement, donc le chien va être euthanasié. Et le juge n'a pas parlé du montant, mais a quand même dit une chose importante. La mort d'un chien, bien que ce soit d'une tristesse infinie, ça ne peut pas se comparer à la perte d'un enfant. Donc, quand on établit le dommage, ben, il faut tenir compte de la différence. Maître d'ailleurs en droit animalier, c'était le propriétaire du chien. Maître Raymond, bonjour.
Oui, bonjour, M. Arcand.
Peut-être d'abord nous dire un peu les circonstances dans lesquelles là, votre chien s'est retrouvé à la clinique vétérinaire en question.
OK. 28 septembre 2019, dans l'après-midi, ma conjointe m'appelle. J'étais à l'extérieur pour me dire que virus avait l'estomac gonflé. Je me rends à domicile. Jusqu'à 6 heures, je vois que l'animal est capable de se lever, est capable de faire ses besoins et tout ça. Mais à 6 heures, voyant que ça se passe pas, je décide d'aller à l'hôpital vétérinaire DMV. Vers à peu près 18h15, ils ont fait une radiographie et ils diagnostiquent ce qu'on appelle une torsion gastrique. C'est l'estomac qui retourne sur lui-même. Normalement, les circonstances comme ça, vous devez opérer dans l'heure qui suit. Sinon, l'animal a plusieurs pourcentages élevés de chances de mourir. L'animal a été amené pour euthanasie à 9h-10. Je l'ai vu marcher pour la dernière fois à ce moment-là. Il a été opéré de 10h à 12h35 et à 12h40, j'ai été le voir. Quand je l'ai vu, bon, il était drogué, c'est sûr, à morphine et tout ça. C'est un chien qui avait 11 ans, on lui a fait un bilan sanguin, il était jugé apte à être opéré. Pas de complications durant l'opération, aucune façon. Le lendemain, et à partir du dimanche, lundi, mardi, mercredi, à chaque jour, deux fois par jour, je leur demandais quand j'allais le voir, pourquoi il se lève pas, pourquoi il marche pas. On ne sait pas. J'étais dans un hôpital vétérinaire, là. Le jeudi matin, j'étais rendu à 9 300 $ de frais pour l'opération. Et là, on me dit, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'amélioration. J'ai dit, je le sors de là. Je l'ai emmené à Saint-Hyacinthe d'urgence. On ne m'a jamais aidé à sortir, à part deux techniciennes qui m'ont aidé à mettre l'animal sur une civière. Mais le vétérinaire de garde n'est jamais venu me voir. Puis mon animal était après faire une hémorragie interne importante. J'arrive à Saint-Hyacinthe, on stabilise. 5h, je rencontre une neurologue. 8h, je revois la neurologue et dès le début de la conversation, elle me regarde et elle me dit, en mettant son index sur son pouce, elle dit, les chances que votre chien remarche un jour sont de 0. Fait que là, j'ai regardé ma conjointe, j'ai dit, that's it, on arrête ça là. Je veux pas qu'il souffre, puis je veux pas passer le restant de mes jours et le restant de ses jours à lui, d'avoir à lui faire faire ses besoins. Je vous fais garde de la façon de le faire, là. Fait que ça a été ça.
OK. Ce que je comprends aussi, ce que vous dites dans le fond, c'est, mm-hmm. et c'est la raison de la poursuite, là, c'est que vous attribuez une responsabilité à la clinique à partir de la façon dont ils ont traité le chien. Le suivi après l'opération. Puis, en gros, vous dites, c'est une perte pour nous majeure et c'est pour ça qu'on réclame le 300 000.
Là. Oui. Puis le montant, je veux bien l'expliquer, là, parce que la première fois qu'un juge a entendu ça, il a dit 300 000 pour un chien, mais voyons. Mais là, j'ai dit, voulez-vous que je vous l'explique sérieusement, là? Non, c'est correct. Il dit, c'est beau. Là. Fait que là, le 300 000, vous avez 100 000 de dommages moraux, ça c'est les coûts de l'opération, mes frais pour avoir préparé la poursuite, parce que jamais, ils m'ont proposé, après l'incident, de dire, écoutez, M. Raymond, on va s'asseoir avec vous, on va écouter c'est quoi le problème, qu'est-ce qu'on peut faire. On a toujours caché jusqu'encore à ce jour. Ils refusent de reconnaître qu'ils ont une responsabilité, parce que comme j'ai dit à la juge, puis à la juge en cour supérieure et en cour d'appel, j'ai dit, n'eût été de sa quadriplégie. Mon chien, là, il serait mort probablement de circonstances naturelles. Comme j'ai dit à la juge Piché, j'ai dit, j'aurais pu sortir de l'hôpital vétérinaire, mon chien marchait jusqu'à mon camion, et là, il me fait une crise cardiaque, puis il meurt là. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est une mort naturelle. Mais mon chien, n'eût été de la quadriplégie, j'aurais pas eu à le faire euthanasier. Fait que là, eux autres, on passe toujours de le chien est vivant au décès du chien. Mais entre les deux, là, on escamote l'éléphant dans le corridor. Là. Pourquoi mon chien ne marchait pas? C'est ça.
OK. Il y a deux éléments importants. Vous me direz là, si c'est vrai ou pas, là, mais vous avez dit que au Québec, on considère encore un animal comme une espèce d'objet, comme un meuble.
Oui.
Est-ce que c'est vraiment le cas ou si la loi a changé, ce qui fait qu'on est, ils sont plus considérés comme des biens, là, je dis ça ce matin, depuis 2015?
Mm-hmm. Mais le problème, M. Arquin, est le suivant. 898.1, premier alinéa, la première phrase, les animaux ne sont pas des biens, ce sont des êtres vivants.
Oui.
Mais regardez le deuxième paragraphe. Puis je paraphrase, là, nonobstant le premier paragraphe, là, au premier alinéa, là, les animaux sont toujours considérés comme faisant, étant légiférés sous le vocable des biens meubles. Le côté gauche dit pas la même chose que le côté droit et vice versa. C'est ça le problème.
Okay.
Ça, c'est anticonstitutionnel en passant.
Puis la décision du tribunal est pas sur le montant, là, mais c'est de dire, quand on évalue le dommage, on peut pas comparer la mort d'un chien à la perte d'un enfant. Êtes-vous d'accord avec ce principe-là?
Oui et non. Je vais vous expliquer pourquoi.
Okay.
On va partir de la prémisse suivante. À la base, votre cerveau, il y a des études qui sont faites aux États-Unis là-dessus, puis ailleurs dans le monde, là, Votre cerveau n'enregistre pas le décès d'un être de la même façon. Pardon, on va l'enregistrer de la même façon. Que ce soit un être vivant ou que ce soit un animal, votre cerveau, il y a un décès qui enregistre puis vous réagissez en conséquence. Deuxièmement, il y a la jurisprudence au Canada, le fameux arrêt Gossett, là, en 1996, quand un policier avait tiré sur quelqu'un dans un stationnement. On établit pour la première fois au Québec la possibilité d'avoir ce qu'on appelle du solatium doloris, c'est-à-dire une compensation pour la perte d'un être cher. Et je dis bien un être cher, je parle pas d'un être humain, on parle d'un être cher. Ça, quand vous faites la corrélation, et la juge Pichet l'a fait d'ailleurs, puis elle a reconnu ce principe-là, qu'il est possible maintenant au Québec, pour la première fois, d'accorder ce qu'on appelle des dommages pour perte émotionnelle, le solatium doloris. Elle cite même les 5 critères de l'arrêt Gossett qui peuvent servir de barème pour établir le montant. Parce qu'à l'heure actuelle, un juge qui vous donne un montant, là, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de barème, il n'y a pas de critères. C'est subjectif, puis bon, ben dans ce cas-là, on va donner 500, dans ce cas-là, on va donner 1500. Mais pour la première fois, ça a été établi. Même si la somme, je suis en désaccord avec, parce qu'on a refusé mon expertise d'un économiste, là. Et par contre, le principe existe.
Mais, Maître Raymond, ce que je comprends, vous dites, c'est pas un enfant, mais il y a une douleur quand même, puis il y a une perte émotionnelle dans ça, dont il faut tenir compte.
Oui, et le juge, à ce moment-là, basé sur un certain nombre de critères, pourra dire, M. Arcan, dans la perte, par exemple, je me sers de votre mademoiselle Tazier en exemple, de dire, bon, ben vous avez vécu tel type de relation. D'ailleurs, ma relation avec Virus a été qualifiée d'extraordinaire par toutes les parties au dossier. Tout le monde a reconnu ça.
OK. Merci beaucoup, Maître Raymond. Bonne journée.
Ça me fait plaisir. Merci, M. Arcan.
Maître Bernard T. Raymond, qui est avocat spécialisé en droit animalier et qui était le maître ou le propriétaire, si vous voulez, de Virus. Tu feras voir les courriels entrés. Quand tu parles des animaux, les chiens, les chats, là, je peux te dire une affaire que c'est... Puis il y a des gens là, qui racontent des... Puis je vais nommer la clinique, là, j'ai oublié de le mentionner tantôt, je sais pas pour... c'est public, là, c'est le groupe Dimension Multivétérinaire.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.